Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à cette rétrospective. Et voici les titres qui vous seront développés dans cette rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur Radio Okapi. Les prévisions de croissance économique 2015 de la RDC revues à la baisse, 8,4% contre 10,2% initialement annoncé en début de l'année par le gouvernement. Cette situation est consécutive au ralentissement de l'activité économique à l'échelle mondiale, marqué pour la RDC par la chute des cours des matières premières. Le mauvais état de la nationale numéro 4 entre Beni et Butembo ne permet plus un trafic aisé entre ces deux villes depuis quelques semaines. Le gouverneur du Nord Kivu reconnaît cette situation et rassure que le gouvernement congolais vient de signer un contrat avec l'entreprise chinoise Crexet pour la réhabilitation du tronçon Kasindi-Butembo. Et avec notre invité depuis Montréal au Canada, Philippe Oualessa, nous allons revenir sur le forum de Kinshasa consacré à la protection sociale. Philippe, si vous êtes avec nous, bonjour et bienvenue à cette émission sur Radio Okapi. Et à tout à l'heure pour le dossier de la semaine. Bienvenue à toutes et à tous.
Panorama économique, le dossier.
Retour sur ce dossier stratégique portant sur la politique nationale de la protection sociale, résultat de la table ronde qui s'est clôturée le week-end dernier à Kinshasa. Le souhait du ministre en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale ainsi que celui des participants était de voir ces stratégies retenues se traduire en plan d'action pour la RDC. Nadine Foulatsemba nous en dit plus.
Les participants, venus de toutes les provinces et des différentes administrations publiques, ont pendant 5 jours passé au peine fin le contenu de ces documents. Objectif, rendre opérationnelles et efficaces les lois qui existaient déjà. Par ailleurs, ils ont introduit progressivement quelques innovations, notamment l'établissement de nouvelles taxes pour soutenir la protection sociale. Professeur Willy Makiachi, vice-premier ministre et ministre en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale, se réjouit de voir la RDC enfin dotée d'une politique nationale sur la prévoyance sociale.
Je me réjouis de savoir que vous avez maîtrisé le processus d'élaboration d'une politique et d'une stratégie de protection sociale collective ad hoc. Il faut faire en sorte que cette politique et cette stratégie se traduisent en plan d'action à court, moyen et long terme.
Quelques participants à cette table ronde souhaitent que cette politique sur la prévoyance sociale se matérialise dans la vie de toutes les couches de la population. On écoute respectivement Cyprien Bouka, évêque de Boma, et Laurent Kaozi, ministre provincial du Katanga en charge de l'éducation et énergie.
Susciter les espoirs de la population capable d'accéder à une santé de qualité.
Nous voulons que tous nous puissions participer par effort de solidarité à apporter une réponse aux besoins de chacun.
Parmi les recommandations, les participants souhaitent voir en dehors de l'INSS la création d'une haute autorité de prévoyance sociale qui sera financée à 100% par des Congolais et qui sera dépolitisée.
L'emploi nous conduit également au Kasaï oriental où les agents de SESCAM, le service d'assistance et d'encadrement du Small Scale Mining, revendiquent leur arriéré de salaire de 21 mois. Dans un mémorandum adressé au ministre provincial du Travail et Prévoyance sociale, les agents de ce service technique du ministère des Mines qui encadrent les exploitants artisanaux des matières minérales demandent le versement des salaires pour leur permettre de faire face à la rentrée des classes pour leurs enfants. Un des représentants des travailleurs du SESCAM s'exprime au micro de Chris Moukand.
Ça fait pratiquement 21 mois que nous ne sommes pas payés. C'est une situation vraiment qui nous a beaucoup déstabilisés sur le plan social. Il y a parmi nous certains d'entre nous qui sont déjà délogés. Il y en a même qui ont perdu leurs enfants. Que les autorités puissent quand même prendre en considération nos préoccupations majeures de paiement. Quand on travaille, c'est pour être payé. Nous voulons la bancarisation. Nous voulons aussi la régularisation de la paye. La paye au SESCAM n'est pas régulière. Donc, les arriérés, là, on peut vous payer un mois aujourd'hui. Il faut attendre après 3-4 mois pour qu'on vous paye encore un autre mois. Et c'est ainsi qu'il y a eu cumul des arriérés. Qu'on essaie un peu de voir la situation des agents du SESCAM Kasaï Oriental. Nous sommes vraiment en difficulté. Kasaï Oriental, le SESCAM est étouffé. Le SESCAM ne fonctionne pas convenablement, comme partout ailleurs. Et pourtant, c'est un grand service qui peut faire entrer beaucoup de recettes dans les trésors publics. Et en plus de ça, nous devons avoir un syndicat pour la défense de nos intérêts.
Le ministre provincial du Travail et de la Prévoyance sociale, qui se trouve en mission à Kinshasa, a affirmé avoir orienté ce dossier à l'inspection du travail. Et pour sa part, l'inspecteur du travail recommande aux agences ESCAM de se constituer en syndicat. Ainsi, leurs préoccupations pourraient être traitées dans le cadre d'un conflit collectif de travail, ce qui permettra d'interpeller l'employeur en bonne et due forme. Retour ici à Kinshasa, où le comité de la politique monétaire de la Banque centrale du Congo, réunie lundi, a maintenu le dispositif actuel de la politique monétaire, maintien malgré le ralentissement observé sur l'économie mondiale, marqué par la baisse généralisée de la demande, la baisse des prix de matières premières exportées par la RDC étant en baisse sur le marché international. Les prévisions de la croissance pour 2015 ont également été revues à la baisse. Berry Franklin Luchaka nous donne les détails.
Les estimations de la croissance de la RDC pour 2015 étaient initialement projetées à deux chiffres. Elles ont atteint 9,2% au mois de mars de l'année en cours contre 9,5% en 2014. Cependant, un recul à 8,4% est signalé à la clôture des activités de production en fin juin. Le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo explique cette situation par le ralentissement des activités de la branche extraction, principal secteur contributeur du trésor public. La révision à la baisse des prévisions est aussi justifiée par la baisse de la confiance des chefs d'entreprise de la RDC, 14,7% à fin août contre 18,3% fin juillet. Les finances publiques n'ont pas été épargnées. Elles dégagent une diminution de 50% par rapport au mois de juillet, marquée par une faible mobilisation des recettes face à des dépenses de plus en plus croissantes. Des légères dépréciations ont été également enregistrées sur le marché d'échange au cours du mois d'août. 927 francs congolais au taux officiel et 933 francs congolais sur le marché parallèle pour 1 dollar américain. Par ailleurs, le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo a annoncé une petite baisse du taux qu'appliquent les banques commerciales sur les crédits entre juin et juillet 2015, avant de noter que ces mêmes banques commerciales ont augmenté de 1% l'enveloppe du financement à l'économie. Ainsi, avec une attention soutenue, le comité de politique monétaire a décidé de maintenir le dispositif actuel de la politique monétaire, soit 2% de taux directeur, 8 et 7% de réserves obligatoires sur les dépôts à vue et à terme en devises, 2% de réserves obligatoires sur les dépôts à vue en francs congolais et 0% pour les dépôts à terme. Et Deo Gracias Mutombo d'ajouter qu'aucun risque ne peut pour l'instant déstabiliser le dispositif de la politique monétaire en place.
Merci Berry Franklin Luchaka, et nous allons retrouver en ligne depuis Montréal au Canada notre invité Philippe Wallace. Philippe, vous êtes avec nous?
Oui, ce qui a été dit.
Mm-hmm. Je voudrais que vous placiez un petit commentaire rapidement sur l'actualité de la semaine dans notre dossier. Nous sommes revenus essentiellement sur trois informations dans ce dossier de la semaine. Nous avons parlé de ce forum sur la protection sociale où un document stratégique a été arrêté lors de ce forum national sur la protection sociale. Et l'appel du vice-premier ministre en charge de l'emploi et de la prévoyance sociale qui demande à ce que le Congolais finance à 100% ce fonds qui va permettre de protéger les travailleurs. Et le deuxième dossier, vous avez suivi cette histoire de ces scams où les agents ne sont pas bien payés et les prévisions économiques de la RDC qui sont revues à la baisse. Au début de l'année, on avait annoncé 10,2%, mais aujourd'hui, les prévisions sont réduites à 8,4%. Votre commentaire rapidement, et je signale en passant que vous êtes le président du Fonds d'investissement des Congolais, des Congolais expatriés. Vous vivez à Montréal au Canada et c'est vous qui commentez l'actualité de la semaine. Votre analyse, votre lecture avant de passer à autre chose.
Oui, j'ai entendu prendre le ministre, mais je suis quelque peu désolé parce que pour lui, il faut établir de nouvelles taxes, ça il l'a dit clairement, pour financer ces mesures-là. Et aussi, je suis quelque peu, je me réjouis un peu de savoir qu'il invite les Congolais à se mettre en place pour financer aussi une partie de fonds ou de programmes-là. Là, c'est très bien. Mais ce que je remarque au tout début, lorsqu'on parle de la protection, on a vu avec l'UNICEF, il n'y a pas de retraite supplémentaire, il n'y a pas de retraite complémentaire. C'est un système qui a été là depuis longtemps, qui n'a pas donné de bons fruits. Et puis aujourd'hui, les gens n'ont pas la confiance. Mais quand le ministre parle de financer avec des taxes, là, c'est la population qui doit encore en payer et ça doit quand même avoir une certaine répercussion au niveau économique. Mais lorsqu'on veut appeler tous les Congolais à contribution, là, ça pose aussi un problème parce qu'ils n'ont pas confiance. Et moi, je me demande pourquoi c'est seulement maintenant, pourquoi on n'a pas pensé à ça bien avant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui motive ça aujourd'hui?
Mais mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais, Félix, dit-on.
Non, vous savez très bien que la gestion, il faut anticiper les situations dans lesquelles vivent les Congolais. On ne peut pas beaucoup accepter qu'ils n'ont pas la protection sociale. Ça, je n'ai pas vu ça ailleurs. Même un pays à côté comme le Cameroun, vous trouvez que c'est quand même bien organisé. Je ne dis pas qu'on n'aurait pas, on aurait tout fait au même moment, mais je trouve que c'est peu et c'est trop tard. On araurait pu prendre des mesures beaucoup plus contraignantes. Et la façon de financer ça, il parle des taxes. Et, ça va encore s'ajouter. Il parle de la conservation des Congolais. Les Congolais n'ont plus confiance. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
Justement, qu'il faut faire? Selon vous, qu'est-ce que vous pensez alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes le président d'un fonds d'investissement. Et là, un appel est lancé à tous les Congolais qui sont sur le territoire national, comme vous, expatriés, de mettre la main à la pâte, d'apporter les moyens nécessaires pour améliorer, contribuer dans cette structure-là. C'est la proposition de création d'une haute autorité de prévoyance sociale, de protection sociale pour assurer quand même une sécurité, une bonne santé aux travailleurs même après la carrière, que la retraite ne soit pas une prison.
Oui, que la retraite ne soit pas une prison, je suis d'accord, mais la situation que vit le Congo démocratique, la Chine, qui est pris comme un pays modèle de développement, est en train aussi de la vivre, et puis on est en train de la critiquer, puisqu'elle n'avait pas pu savoir, comme l'ont fait les États-Unis ou le Japon, créer des firmes d'État internationales avec des marques mondiales. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, avec la dérive monétaire à laquelle les Chinois sont confrontés, on les reproche et on dit que cette récession chinoise l'avait entraînée aussi, celle du Brésil, celle des États-Unis, de la France, puisqu'il n'y a pas de marque, il n'y a pas eu de plan de relance. Et puis, il y a eu une stagnation. Mm-hmm. Et à ce moment-là, je trouve que le même constat qui se passe au Congo, c'est comme ça en Chine. Et je vous dis, pour vous faire rire, en Chine, quand quelqu'un commet, par exemple, il conduit et il fait un accident, il veut tuer, puisque quand il tue, il va payer une seule fois. Mais quand la personne est en vie, le conducteur va le prendre en charge toute la vie. Avec le fonds, concrètement, nous pensons intervenir soit avec les Congolais eux-mêmes qui peuvent financer, disons, sous forme de contribution, avoir des parts, faire des sortes que quand il y aura des événements, il y aurait qu'on puisse intervenir. Ici, par exemple, au Canada, on trouve que nous avons des maisons funéraires. Ces maisons-là ne coûtent rien, mais quelqu'un qui a des actions avec l'entreprise, quand de même il peut vivre de telles situations, on met en place une politique pour quand même qu'on prenne en charge le fonds funéraire qu'on organise, que ça ne devienne pas un grand problème. Mais ça prend quand même des bonnes provisions, ça prend des discussions, puisque quand même on n'a pas peur de venir investir, mais il faudra quand même que les Congolais s'approprient à la gestion.
Okay. Et
le problème qu'on a beaucoup soulevé.
Oui, puisque vous avez parlé de la Chine, vous savez que le ralentissement de l'économie chinoise a aussi entraîné un ralentissement en quelque sorte sur l'économie mondiale. Et là aussi, la RDC est en train de ressentir en quelque peu parce qu'elle est exportatrice de produits, des matières premières, dont la Chine n'est aussi parmi les premiers consommateurs. Alors là, le prix, les matières ne valent plus ce qu'elles étaient. Et puis, l'économie congolaise qui en souffre aussi. Les prévisions sont en train d'être revues à la baisse. Là, vous ne placez pas un commentaire?
Oui, le problème de l'économie congolaise est qu'on ne veut pas diversifier. J'entendais quelqu'un qui parlait qu'il a travaillé, ils sont en train de travailler, ils ne sont pas payés. Ça fait 21 mois. Mais lorsqu'on va nous parler de la croissance, mais je pense que c'est, il y a quand même une illusion de la prospérité est beaucoup plus grande croissance. Et cette mesure, là, moi, je la trouve assez forte. Parce qu'il y a quand même une disconnexion entre une croissance économique satisfaisante et les salaires qui stagnent, voire même des salaires réels qui baissent. Alors, comment on peut parler de la mesure de la prospérité nationale? Et ça fait très mal que quelqu'un travaille et qu'il n'est pas payé. Alors, lorsqu'on peut faire la balance, même si on peut parler du taux d'inflation, on va regarder tous les services, tous les biens et services produits dans un pays sur une année. Mais les services qu'on rend, on les rend à qui? Les gens ne sont pas payés, les routes ne sont pas entretenues. Il n'y a pas une protection sociale. Mais comment on peut parler d'une croissance? Alors, il faudra peut-être qu'on regarde d'abord ce qui constitue le bien-être de la population, parce que pour le Congo ou ailleurs, ce sont les membres de la classe moyenne qui sont beaucoup plus concernés. Mais si on ne fait rien, on ne peut pas financer les frais de santé, de l'éducation familiale, ainsi que les retraites. L'État ne couvre rien. Moi, je trouve que c'est ça le grand problème. Et puisqu'il n'y a pas de service, puisqu'on ne peut pas rendre de service, puisqu'il n'y a pas de biens qu'on peut vendre, à part les mines là. Mais à un moment, lorsqu'on va tout faire les mines, qu'est-ce qui va devenir? Pourtant, il y a des projets agricoles, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites au Congo et qui peuvent soutenir l'économie. On ne peut pas seulement parler de la matière première.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Les autres informations de la semaine en bref, d'abord parlons de l'ouverture mardi de la session budgétaire au Parlement. Pour le président du Sénat, le budget 2016 sera voté dans un contexte difficile suite aux perspectives économiques qui paraissent incertaines. Incertitudes liées au ralentissement de la croissance économique sur le plan international. Ainsi, le gouvernement projette la réduction de 30% du train de vie de l'État. Les sénateurs reviendront également sur la faible réalisation des recettes du budget 2015. Et pour sa part, Aubin Minaku, président de l'Assemblée nationale, il a plaidé pour que le social ait une grande part dans le budget 2016. Il est aussi favorable à une meilleure redistribution des richesses du pays. Le bureau du comité des gouverneurs des banques centrales du COMESA a tenu mercredi à Kinshasa sa 36e réunion. Le comité des gouverneurs du marché commun de l'Afrique australe et orientale évalue les recommandations de la 20e session ordinaire des gouverneurs des banques centrales du mois de novembre 2014. Les grandes recommandations de cette session étaient entre autres assurer l'intégration régionale, la mise en place de moyens de paiement communs. Et pour Déogracias Mutombo, gouverneur de la Banque centrale du Congo et président de ce comité, des avancées sont enregistrées, mais beaucoup reste tout de même à faire. La nouvelle province de Bahouélé, située à plus de 324 km au nord de Kisangani, connaît depuis le mois dernier une augmentation considérable de la production de riz et d'arachide. Cette augmentation est favorisée par l'appui du gouvernement provincial, évalué à 16 tonnes de semences améliorées de cultures apportées aux cultivateurs. Conséquence, le kilo de riz est passé depuis fin août de 700 francs à 300 francs congolais et celui d'arachide revient à 400 francs contre 1000 francs il y a quelques semaines. Et en Ituri, les points de perception des taxes de la DGRPO Ituri sont démantelées depuis mardi par les services de sécurité. C'est en exécution de l'arrêté du gouverneur de la province orientale démembrée signé le 12 septembre portant suspension de perception des taxes dues à la nouvelle province de l'Ituri. Ce démantèlement intervient deux jours après la résistance des agents de cette régie financière qui se sont opposés à cette décision. La cellule d'exécution de projet de la régie de distribution d'eau, la régie des eaux, consulte le public dans le cadre du financement additionnel du projet d'alimentation en eau potable en milieu urbain, le PEMU, que le gouvernement a sollicité, obtenu de la Banque mondiale. Ce projet, qui devait s'achever le 31 décembre prochain, va continuer grâce à un financement additionnel de 150 millions de dollars américains. Cet argent servira à poursuivre les efforts de la Régie des eaux à alimenter en eau potable les villes de Kinshasa, Matadi, Lubumbashi et Kindu. Et pour plus d'efficacité, la cellule PEMU a organisé des consultations publiques dans ces villes le mardi 15 septembre pour informer l'opinion sur les nouvelles activités prévues dans le cadre du financement additionnel.
Panorama économique, reportage.
Notre reportage de la semaine nous conduit au Nord-Kivu, où le trafic est devenu difficile depuis quelques semaines sur le tronçon Beni-Butembo, c'est sur la nationale numéro 4. Et pour cause, l'impraticabilité de cette route d'intérêt économique due à son mauvais état. Le gouverneur du Nord-Kivu, qui reconnaît cette situation, rassure tout de même que le gouvernement congolais vient de signer un contrat avec l'entreprise chinoise Crexet pour la stabilisation du tronçon Kasindi-Butembo. Martial Papi Mukeba a parcouru ce tronçon pour nous et c'est le reportage de la semaine.
Des tronçons des routes menacés par l'érosion, des ponts en état de délabrement très avancé, de grosses crevasses pleines d'eau, c'est l'image qui présente la route Beni-Butembo lorsqu'il pleut. Les voitures, minibus, poids lourds et autres véhicules de transport font des heures et des heures pour parcourir ces tronçons d'environ 54 km. Le gouverneur du Nord Kivu reconnaît cette situation, mais selon Julien Paluku, le gouvernement congolais vient de signer un contrat avec une entreprise chinoise pour la stabilisation de cette route.
L'État, lorsqu'il a été dans la région la dernière fois, il a reçu une entreprise chinoise qu'on appelle Crexet. Et cette entreprise a signé avec le ministère national des infrastructures pour un montant d'à peu près 7 millions de dollars pour la stabilisation de la route qui va de Kasindi à Butembo. Et c'est en prévision de l'asphaltage de cette tronçon-là. Maintenant que nous, au niveau du gouvernement provincial, nous avons acquis l'usine d'asphalte, donc tout projet d'asphaltage de Butembo, de Beni, ne pose plus de problème.
Signalons que pour l'instant, c'est les travaux d'asphalte de la voirie urbaine de la ville de Butembo ont débuté sur financement du gouvernement provincial du Nord Kivu. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Très bonne fin de semaine, Martial Papi Mukeba à Beni et partout où vous écoutez Radio Okapi, c'est Panorama économique sur Radio Okapi. Pour cette semaine, nous avons en ligne depuis Montréal au Canada, Félix Walesa, il est le président du Fonds d'investissement des Congolais expatriés, celui qui analyse l'actualité avec nous. Félix, vous avez suivi cette deuxième partie, mais je pense qu'il y a beaucoup qui pourraient vous intéresser parce que vous avez mis en place un fonds, vous nous l'avez dit l'autre fois, un fonds de près d'un milliard de dollars et ça doit servir à investir dans l'industrie. Aujourd'hui, comment ça avance?
Oui, ça avance bien. Nous avons tenu une réunion du conseil d'administration avant samedi, le 12 septembre, si ça va, et le 26 septembre, nous allons tenir encore notre réunion. Les choses avancent, ça bouge beaucoup et on est beaucoup plus confiant. Mais en revenant sur ce que vous êtes en train de dire, par exemple la société chinoise qui va aller confectionner les routes à Beni, moi, pour les gens qui sont pas assis, ils peuvent penser que les Chinois sont assez sains, mais ils ne le sont pas. Et je ne dis pas clairement que les Chinois ne sont pas assez sérieux, mais nous sommes dans les affaires avec eux et on voit comment ils se comportent.
Ils se comportent comment?
Ils ont déjà construit. Pas toujours. Moi, je préférerais traiter avec un Nord-Américain, peut-être encore un Européen qu'un Chinois. Moi, je pense que dans la situation qui est de Beni, ou même encore de manière générale, pourquoi ne pas renforcer par exemple le flux de route? Pourquoi ne pas donner ces contrats-là à des sociétés privées qui ont quand même une certaine expertise? On ne doit pas, les Chinois doivent pas être le modèle des Congolais. Je suis désolé de le dire.
Mais Philippe,
on ne peut pas accepter ça.
Philippe?
On ne peut pas accepter ça parce que, oui?
Oui, je pense que vous êtes au Canada, mais vous savez qu'aujourd'hui, Américains et Européens, ils ont tous les yeux aussi tournés vers la Chine. Tout le monde demande aussi la main de la Chine, c'est-à-dire la Chine est devenue un peu incontournable dans la situation économique mondiale quand même.
Non, mais il y a à prendre, à boire, à laisser. Il y a beaucoup de secteurs, par exemple dans les domaines sociaux là. Moi, si je suis congolais, je n'en dirais pas vraiment un Chinois.
il y a des photos qu'on peut montrer. On est allé dans les points les plus reculés. Vous n'avez pas l'idée. Et vous voyez le taux de la crise. Je parle de la crise, je parle des conditions de vie qui ne sont pas vraiment, pas l'idéal, mais même celles des Congolais, on peut dire que ça peut passer. Alors, la Chine n'est pas un modèle. La Chine a fait ce qu'elle a fait pour soutenir son économie. Je comprends. Et puis, même quand on traite avec les Européens ou les Américains, nous, quand on traite avec eux, nous leur disons, voilà nos normes, il faut les suivre. Mais il ne le fait pas quand il s'agit d'un Congolais, il ne le fait pas quand il s'agit d'un Africain.
Okay.
Mais pour moi, Canadien, il va accepter ça. Mais pour un Congolais ordinaire, je suis désolé de le dire, mais il n'y a pas une autre façon de le dire de manière polie. Et les Congolais qui sont là-bas souffrent beaucoup.
Ce n'est pas un modèle. Okay,
mais aujourd'hui, mon message est qu'on ne peut pas considérer la Chine comme le modèle dans tout. Oui, peut-être dans l'économie. Les Congolais sont intelligents dans plusieurs domaines. Tout ce qui manque aux Congolais, c'est quoi? Qu'on leur donne les matériels, les équipements, ils vont produire, ils peuvent faire tout ce que la Chine a fait, ils peuvent tout ce que les Américains ont fait. Alors, qu'on parle au moins de la Chine, qu'on parle beaucoup de Congolais, qu'on voit ensemble ce qui peut être. C'est dans ce sens-là que le fonds vient pour qu'il y ait des outils de production qui créent la richesse et que, avec les Congolais sur place, qu'on voit le programme qu'on peut mettre en place pour soutenir. Oui, j'ai parlé de Monsieur Mohamed.
Nous allons terminer l'émission. On a déjà bouffé le temps qui nous était imparti, Monsieur Philippe. Rapidement, puisque vous avez dit avec le fonds, vous avez mis en place le fonds. Il faut voir avec les Congolais qui sont au pays, qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble pour que le Congolais produise. Et c'est justement dans ce sens-là, en parlant un peu de ce fonds-là, qu'on va terminer cette émission. Qu'est-ce qui est déjà fait justement avec ce fonds d'investissement? Comment les Congolais, alors qu'ils sont, parce qu'il y a eu ici un forum entre Congolais et Sud-Africains, mais l'association de petites et moyennes entreprises de la RDC réagit, dit que ce forum-là, les petites et moyennes entreprises n'en bénéficient pas assez, mais je pense que peut-être vous pouvez ouvrir une porte pour que ces petites et moyennes entreprises congolaises collaborent avec le fonds d'investissement que vous avez mis en place pour développer, pour produire aussi en RDC.
Oui, surtout, ils vont avoir l'argent, le gouvernement va avoir l'argent, et les investisseurs vont avoir l'argent.
Mais comment vous contacter pour avoir cet argent?
Oui, les fonds d'investissement, d'abord, nous sommes une société par action à responsabilité limitée. C'est une société de capital. Et la manière que ça intervient, il y a des actions qu'il faut acheter, il y a des programmes qui doivent être mis en place. Pour bénéficier de ce fonds-là, moi, tout ce que je peux dire aux gens, c'est de nous contacter. Soit ils le font avec le site internet qui est www.f comme François, i comme India, t comme Denis, c comme Charles, e comme Echo.com. C'est FIDCE.com. À ce moment-là, on va analyser les projets qu'ils ont et on va établir un calendrier d'exécution. On sait très bien que la situation politique est morose, mais nous, on n'a pas à faire. On va quand même faire quelque chose dans ce sens-là. Et puis, ce qu'ils peuvent appeler, le numéro de téléphone est le 514-789-94-03. Je répète, 1-514-789-94-03. À ce moment-là, on peut analyser le projet et puis on peut voir. Par exemple, moi, ce qui m'intéresse, si les gens disent aujourd'hui qu'il y a le projet de la sacherie là de Kinsantou, on peut faire les emballages. C'est un projet qui nous intéresse pour lequel on a approché le gouvernement. On peut avoir les emballages industriels, commerciaux, et ça, on doit déjà emballer les produits qu'on produit sur place qui peuvent être destinés à l'exportation. Ça, c'est une chose qui peut être faite. On regarde encore la pêche, parce que pour Tanganyika, il y a trop de poissons, ou encore dans les petites rivières, là, il y a beaucoup de poissons. Nous avons beaucoup d'équipements pour pêche. On peut mettre à la disposition des pêcheurs et à ce moment-là, quand ils vendent, nous pouvons trouver des restaurateurs, que ce soit sur place au Congo ou même ici, pour les vendre. Les produits agricoles, ça marche très bien. Il faut regarder dans ce sens-là. Alors, si les gens ont des projets pour avoir des unités de transformation ou encore pour faire des investissements intelligents, nous pouvons collaborer. Nous n'avons pas peur et nous savons que quand il y a des problèmes, nous sommes soutenus, d'ailleurs, le fonds des droits canadiens, et nous savons comment nous pouvons ramener à ça. Alors, c'est notre détermination commune, les Congolais et nous devons faire quelque chose pour changer, comme c'est lui qui a mis en place le microcrédit. Alors, on est vraiment déterminés, on doit cesser de parler, nous sommes là pour les actions et c'est ce que nous invitons aux gens de nous contacter pour qu'on puisse faire.
Ok, merci Willy Philippe Walesa, www.fidce.com, c'est le site du fonds d'investissement de Congolais expatriés, donc www.fidce.com pour vous joindre, proposer des projets, discuter et pour qui pourrait obtenir des financements de la part du fonds d'investissement de Congolais de l'étranger. Merci beaucoup d'avoir encore une fois accepté notre invitation et très bonne fin de semaine à toutes et à tous. Je vous convie de retrouver cette émission sur www.radioocapi.net toute la semaine et très bonne fin de semaine à vous tous.